dans le livre de Ruth, je reçois à nouveau des choses. Donc je me dis, bah, vous pouvez aussi recevoir à nouveau des choses, même si vous l'avez déjà entendu. Et puis c'est tellement riche, il y a tellement de choses dans cette histoire de Ruth, que voilà. Alors si vous avez déjà entendu une partie du message, parce qu'il y aura des choses nouvelles, eh ben, ne prenez pas de notes, mais recevez, écoutez, recevez. Et puis voilà. Donc ce livre de Ruth, hein, on va rester presque uniquement sur le livre de Ruth, pour projeter les paroles peut-être, pour projeter le livre en question peut-être. Voilà. Ruth, en fait, c'est l'une des cinq femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu. Dans l'autre généalogie, il n'y a pas de femmes, quoi, on ne parle que d'hommes. Mais Matthieu, lui, il parle des femmes aussi. Donc dans Matthieu 1, verset 5, on voit que Ruth, elle est dans cette généalogie de Jésus. Et elle est avec qui ? Elle est en compagnie de Tamar, de Rahab, de Bathsheba, la femme d'Uri, et de Marie. Alors bon, Marie, ça va, mais Tamar, c'était une femme adultère. Bathsheba, elle a été amenée aussi à commettre l'adultère avec David, hein, et même que David a fait tuer son mari pour elle. Et Rahab, c'était une prostituée. Donc voilà, trois sur les cinq qui étaient des femmes de mauvaise vie, entre guillemets, n'est-ce pas ? Et ça me fait penser vraiment, donc Ruth est avec ces femmes-là, dans la généalogie de Jésus, et ça me fait penser vraiment que dans 1 Corinthiens, il est dit « Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et pourquoi ça ? Ben, c'est afin que vous sachiez que c'est pas vous, c'est pas à cause de vous en fait. C'est à cause de moi qui agis en vous que voilà. Donc la généalogie de Jésus, ben, elle est faite de gens comme vous et moi, de gens qui ont eu des vies pas forcément très dignes aux yeux des hommes. Hein. Mais voilà, c'est qui nous sommes. Hein. Et quand on voit le nom de Ruth. Les noms, la signification des noms aura beaucoup d'importance dans mon message, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pendant des siècles, on a étudié la parole de Dieu, hein, nous, chrétiens des nations, hein, en oubliant presque que c'était que la parole de Dieu avait d'abord été écrite en hébreu. Hein. On prenait des traductions, des fois des traductions de traductions, et on faisait plus attention au texte hébreu original, et à cause de ça, ben, on a perdu des tas de choses, et notamment la signification des noms, ça a vraiment une importance, parce que le nom, c'est la personnalité, c'est ce qu'est la personne, et la preuve, c'est que quand on change de personnalité, quand Dieu nous transforme, eh ben, il change aussi notre nom. Donc c'est bien la preuve. Hein. Et le nom de Ruth, eh ben, ça veut dire à la fois compagne et satisfaite, comblée. Et Ruth, c'est vraiment l'image de l'Église dans le sens de la partie de l'épouse de Christ qui vient des nations, parce que l'autre partie vient du peuple juif. Hein. Il ne faut pas l'oublier ça non plus. Donc c'est la partie de l'Église, la partie de l'épouse de Christ qui vient des nations. Ruth, c'est l'image de ça. Donc en ce sens, elle est l'image de la compagne de Jésus, hein, mais elle est aussi satisfaite, comblée. Et ça nous rappelle que On est vraiment appelé en tant qu'épouse de Christ. Alors, désolé pour les hommes, hein, mais bon, avec Dieu, il n'y a pas de masculin de féminin. Hein. Je suis bien obligée de dire épouse, parce que le nom épouse est féminin. Mais bon, sentez-vous concerné aussi. Hein. On est appelé en tant qu'épouse de Christ à être cette compagne de Jésus, vraiment son vis-à-vis, c'est la personne qui est en relation avec lui. Donc en tant que personne individuelle et en tant que corps de Christ, on est appelé à être cette épouse qui a cette relation d'intimité avec Jésus et qui est satisfaite, comblée par cette relation d'intimité. Et c'est là qu'on a sûrement beaucoup à apprendre des juifs messianiques, parce qu'eux, ils ont l'habitude depuis tout petit, même avant de recevoir Jésus dans leur cœur, depuis tout petit, ils ont appris à aimer la parole de Dieu parce que c'était comme du miel. Enfin, ils ont vraiment appris cette intimité avec Dieu depuis tout petit. Et nous, on est souvent beaucoup, enfin surtout en France, hein, on est souvent beaucoup plus intellectuel, on a une relation beaucoup plus intellectuelle avec Dieu, mais on a besoin de cette relation d'intimité. On a à prendre d'eux là-dessus, vraiment. Donc voilà, on est vraiment appelé à avoir cette relation-là, cette relation d'intimité avec Jésus qui nous comble. Alors bon, venons-en au livre de Ruth. Donc ça commence pas très bien, si on peut dire. Ça commence par « Au temps où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour aller vivre pour un temps dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient, je ne sais pas si je vais prononcer convenablement, hein, Mahlon ou Marlon, je ne sais pas comment on dit, non, et Kilion. Bon, je vais dire Mahlon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda et ils allèrent à Moab pour y vivre, s'y installer, ou une autre version, parce que souvent je prends les versions anglaises parce qu'elles sont souvent plus précises. Hein. Les Français ont des fois, avec leur rationalisme, édulcoré un peu les choses, les ont rendues un peu plus acceptables. Et voilà. En fait, dans la Bible anglaise, il est dit « Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. » Alors, la signification des noms est importante, comme je le disais. Élimélec, ça signifie « mon Dieu et roi ». Élimélec, mon Dieu et roi. C'est énorme, hein ? Et pourtant, donc il y a une famine dans le pays de Juda. Hein, il habitait Bethléem de Juda. Bethléem, c'est la maison du pain, ça vous savez bien. Et Juda, c'est la louange. Donc il habitait le pays où il y avait du pain, où il y avait de la nourriture spirituelle. Et le pays où on vivait dans la louange, dans la reconnaissance de qui était Dieu et dans la louange. Il habitait là. Et son nom signifiait « mon Dieu et roi ». Et pourtant, malgré tout ça, il quitte ce pays dès qu'il y a une famine, donc dès que les choses deviennent plus difficiles. Et les choses peuvent parfois devenir plus difficiles, soit dans notre vie, soit dans notre vie de famille, soit dans notre vie d'église. Donc, quand les choses deviennent plus difficiles, quand il faut s'accrocher, persévérer, quand tout ne va pas de soi, eh bien, il quitte le Bethléem de Juda pour aller vivre dans le pays de Moab. Et Moab, ça signifie « qui est le père ?» Mo, c'est qui, et Ab, le père, Abba. Donc ça veut dire qu'il quitte la position de foi qu'il avait, le fait de vivre dans la connaissance de qui était Dieu, et de qui est Dieu, et dans la louange, dans l'adoration. Voilà. Il quitte tout ça, sa foi dans El Shaddai, le tout suffisant, le Dieu nourricier, au lieu de continuer à croire que Dieu va continuer à lui donner la nourriture, même s'il y a une famine dans le pays, le Dieu nourricier qui pourvoit à tous les besoins, donc il quitte cette position de foi pour aller dans le pays de Moab, donc le pays du doute, le pays où on se demande mais qui est mon père, où on ne connaît plus le père, où on n'est plus sûr du tout que le père va pourvoir à nos besoins, le pays du doute. Et après, ça devient même plus qu'un simple doute, ça devient de l'incrédulité, parce qu'au départ, il y va pour un temps. Il est dit au départ qu'il va y vivre, enfin, qu'il décide d'y aller pour un temps, juste le temps que ça se tasse, quoi, que les choses redeviennent normales. Mais ensuite, il y fixe sa demeure. Donc, il s'installe dans le doute. Et c'est là que ça devient de l'incrédulité. Il s'installe dans l'incrédulité avec tout ce que produit l'incrédulité dans sa vie. Et ça, ben, ça nous rappelle, nous c'est pareil, comment est-ce qu'on réagit quand on traverse une épreuve, hein, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, soit dans notre vie personnelle, soit dans notre vie de famille, soit dans notre vie d'église, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on va rester dans cette position de foi et de louange, de continuer à croire que Dieu est qui il est, et voilà, ça ne change pas si les circonstances changent, et de continuer à le louer, ou est-ce qu'on va lâcher cette position-là pour, même si on ne se déplace pas physiquement, mais aller quelque part dans le pays du doute et de l'incrédulité, quoi. Élimélec, en plus, il ne part pas seul, mais il emmène avec lui sa famille. Donc aussi, quand on prend une décision comme ça, ben, ça ne concerne pas que nous tout seuls. Ça concerne la famille, enfin les gens qui nous entourent, la famille au sens large. Hein. Ça peut être la famille physique, mais ça peut être aussi nos amis, l'église, etc. Hein. Ça concerne les autres aussi. Donc il emmène sa femme et ses deux fils. Alors les noms de sa femme et de ses fils, hein. Naomi c'est agréable, et Naomi est une image d'Israël. Donc Israël est agréable aux yeux de Dieu. C'est bon à entendre. Et les deux fils, Machlon veut dire lâcheté, faiblesse de cœur, et Kilion veut dire languissant. Et donc lâcheté, faiblesse de cœur, et puis le fait d'être languissant, de ne pas avoir d'énergie, eh bien ce sont des images en fait de ce que produit en nous l'incrédulité. Alors la suite de Ruth, parce qu'heureusement ça ne s'arrête pas là, hein. Si ça s'arrêtait là ce serait triste, ça ne s'arrête pas là. Donc la suite, verset 3, Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là, à Moab, environ 10 ans. Après cela, Machlon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors là, on voit que donc ils se sont installés dans cette vie dans Moab, hein, et il y a eu 10 ans environ, et apparemment c'était une vie stérile, puisqu'on parle pas du tout que Machlon et Kilion ont eu des enfants avec Ruth et Orpa. Hein. On n'en parle pas du tout. Donc 10 ans de vie stérile apparemment. Et puis bon. Ensuite, donc, Naomi est restée seule, privée de ses deux fils et de son mari. Et on va voir qu'après, juste après, elle va se lever et décider de retourner dans Juda. Et bon, là, j'espère que Luc ne va pas me corriger, mais il me semble qu'il fallait que non seulement Élimélec meure, mais aussi ses deux fils, les deux fils de Ruth, Machlon et Kilion. Parce qu'il fallait, même si c'est dur, que les fruits de la chair de Naomi meurent pour qu'elle puisse se lever et retourner dans le pays de Juda. Et quelquefois, nous, on ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur permet telle ou telle épreuve dans notre vie, mais des fois, on en a besoin. On a besoin d'être secoué pour se lever et pour partir. Et on a besoin de couper avec certaines choses ou certaines personnes même pour partir. Et ça peut paraître dur, mais quelquefois, le Seigneur permet des épreuves dans notre vie parce qu'il nous aime et il a en vue quelque chose d'encore meilleur. Donc là, il fallait que les fils de Naomi meurent pour qu'elle ait le courage de se lever, de retourner au pays du Juda, de reprendre sa position de foi et de louange, de lâcher le doute et l'incrédulité pour retourner au pays du Juda. Donc au verset 6, Naomi se leva avec ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple, et dans la Bible anglaise c'est plus clair, avait été venu en aide à son peuple, donc avait apporté une aide concrète à son peuple, et lui avait donné du pain ou de la nourriture, plus précisément. Elle sortit du lieu qu'elle habitait avec ses deux belles-filles, et elles se mirent en route pour retourner dans le pays de Juda. Et là, c'est vraiment comme une conversion. Hein. Elles ont entendu... Enfin, Naomi notamment, je crois qu'elle a entraîné ses belles-filles, mais bon, on verra après que Ruth devait être vraiment pleinement dans la démarche. C'est comme une conversion, elles ont entendu que Dieu visitait son peuple, que Dieu voulait sauver son peuple, et elles ont répondu, elles y sont allées. Quoi. Donc elles ont quitté le doute, l'incrédulité pour rejoindre Juda, la vie de louange, de connaissance de Dieu. Alors au verset 8 à 13, hein, il y a tout un passage où on voit que Naomi veut renvoyer ses belles-filles chez elle. Et ça, c'est la sagesse humaine, hein, parce qu'il y avait plein de questions que pouvait se poser Naomi. Comment est-ce que des jeunes femmes moabites seront accueillies en Israël? Comment est-ce que les jeunes femmes en question pourront lâcher tout ce qui est leur coutume, tout ce qui est leurs habitudes de vie? tous ceux dont elles avaient l'habitude, quoi, pour s'habituer à une autre manière de vivre, à une autre culture, à d'autres coutumes, à même une autre religion, parce qu'elles avaient des dieux, d'autres dieux. Hein. Donc du coup, ben, la sagesse humaine, ça dit elles doivent retourner dans leur famille, elles doivent retourner chez leur mère. Hein. Et puis elles doivent trouver un mari. Elles ne pourront pas avoir de mari si elles viennent avec moi. Donc tout ça, c'est la sagesse humaine de Naomi. Et on voit la différence entre Ruth et Orpa. Au début, elles semblaient être dans la même situation. Toutes les deux, elles accompagnent Naomi. Et toutes les deux, quand Naomi leur dit de repartir chez leur mère, elles disent toutes les deux, nous irons avec toi vers ton peuple. Donc elles paraissent avoir la même détermination. Mais en fait, plus loin, on voit que quand Naomi donne toutes les raisons, et notamment celle de trouver un mari, hein, toutes les raisons de repartir chez leur mère, eh ben Orpa, elle embrasse sa belle-mère. Donc oui, donc c'est un peu plus loin. Donc ça, c'est toutes les raisons que Naomi donne. Hein, c'est un peu plus loin, verset 14. Oui. Voilà. Orpa baisa sa belle-mère, donc elle embrasse sa belle-mère. Mais Ruth, donc pour lui dire au revoir, bien sûr, mais Ruth s'attacha à elle, et en fait, c'est s'accrocha à elle. Donc Ruth a refusé de lâcher Naomi. Elle était vraiment déterminée à changer de vie. Orpa, ça signifie la nuque raide ou le cou raide. Et Orpa, elle n'était pas prête à renoncer à sa vie, la vie qu'elle connaissait, avec tout ce qui était les habitudes de vie, enfin, lâcher tout ça pour aller dans une nouvelle vie complètement différente. Orpa n'était pas prête. Ruth, par contre, elle avait vraiment fait cette démarche et elle pouvait suivre Naomi. Donc Ruth, elle a vraiment un engagement magnifique envers Naomi. On voit ça au verset 16 et 17. Ruth répond à Naomi, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple. » Ce n'est pas « sera », c'est « est mon peuple ». Elle a déjà fait cette démarche. « Ton peuple est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Oui, donc ils disent sera, mais bon, j'ai vérifié dans la Bible anglaise. Hein. Je m'y fie un petit peu plus. Voilà. Donc Ruth, en fait, elle avait déjà commencé à connaître le Dieu d'Israël au travers de Naomi. Et c'est pour ça qu'elle peut dire, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Elle avait déjà fait cette démarche de conversion. C'est vraiment comme une conversion. Hein. Et c'est pour ça qu'elle l'a accompagnée. Donc c'est un engagement total hein, de vraiment suivre Naomi jusqu'au bout, de s'attacher, de s'accrocher à Naomi. Et ça me fait penser, il est dit que dans la fin des temps, ça c'est dans le livre d'Ésaïe qu'il est dit ça, que dans la fin des temps, les chrétiens des nations, enfin ceux qui vont se convertir des nations, ils vont saisir les juifs, et il n'est pas précisé forcément les juifs qui croient en Jésus, hein, il est juste dit les juifs, par le pan de leurs vêtements, en disant, c'est vous qui connaissez Dieu, on va vous suivre parce qu'on sait que vous connaissez Dieu. Et voilà, c'est Ruth, elle saisit Naomi, donc elle fait alliance avec Naomi parce qu'elle sait que Naomi connaît Dieu, même si pour un temps Naomi était peut-être dans une vie de doute, dans un moment de doute et d'incrédulité, mais ça ne fait rien, elle connaît Dieu. Et donc, Ruth s'attache à Naomi parce qu'elle veut, au travers de Naomi, enfin avec Naomi, connaître ce Dieu dans la vie de tous les jours. Et puis, bon, ça fait penser aussi à ce verset magnifique de Galates qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, Ruth, elle lâche tout ce qu'elle a, elle lâche ses coutumes, elle lâche l'estime des gens autour d'elle, tout ça, elle lâche tout pour suivre Naomi, elle renonce à sa propre vie pour vivre la vie de Naomi, en fait, avec elle. Hein. Donc c'est vraiment un engagement total. Et quand elles arrivent à Bethléem, Naomi, en fait, elle était encore remplie d'amertume. C'est pas parce qu'on a fait cette démarche de décider de retourner dans la position de foi, de louange, ben c'est pas pour ça que nos sentiments y suivent toujours tout de suite. C'est d'abord une démarche qu'on fait dans notre cœur, c'est notre esprit qui nous fait faire la démarche, mais ensuite l'âme doit suivre, les sentiments doivent suivre, et ça va pas toujours tout de suite, tout seul, quoi. Enfin, ça va pas de soi, quoi. C'est pas tout de suite quelquefois. Donc quand elles arrivent à Bethléem, ben, les gens hésitent à reconnaître Naomi, tellement elle a été changée par toutes ces années d'épreuves et de souffrances. Et Naomi, elle leur dit de l'appeler Mara, c'est-à-dire amère, parce qu'elle était justement remplie d'amertume. Elle se sentait remplie d'amertume et elle était effectivement remplie d'amertume par rapport à tout ce qu'elle avait vécu. Donc ça, c'est assez sombre. Mais juste après, il est dit que ça se passe au commencement de la moisson des orges, verset 22. Et ça, c'est important aussi, parce que le commencement de la moisson des orges, c'est en mars, au moment de la Pâque. Et la Pâque, c'est le moment où le salut va être révélé, où il y aura la révélation du salut par la foi. Et le salut, pas juste salut de l'âme, hein, sozo, le salut complet, d'accord ? Donc, le fait que Naomi demande qu'on l'appelle Mara, ça fait penser aux herbes amères que les Israélites mangent lors de la Pâque, hein, pour se rappeler les souffrances d'Égypte. Mais à côté de ça, les épis d'orge, ça symbolise la vérité qui libère concernant le salut par la foi. Donc ça montre vraiment qu'à ce moment-là, Naomi et Ruth commencent à recevoir à nouveau, hein, la révélation du salut. Ensuite, il y a tout le chapitre 2 de Ruth, où on voit donc ce qui se passe avec Boaz. Donc Ruth va donc, pour pouvoir survivre, parce qu'elles n'ont pas de moyens de subsistance, va aller glaner. Donc Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Et Boaz, ça signifie « en lui est la force ». Et en fait, Boaz, c'est l'image de Jésus. C'est pour ça qu'il était puissant et riche. Il était puissant de la toute puissance de Dieu et il était riche de toutes les richesses, de toutes les ressources du royaume des cieux. Donc Boaz est l'image de Jésus. Donc Ruth va aller glaner dans le champ. En fait, elle va aller dans un champ au hasard, mais Dieu va la conduire pour qu'elle aille justement dans le champ de Boaz, dans un des champs de Boaz. Donc Boaz va la remarquer et il va demander aux serviteurs établis sur les moissonneurs. Alors, je vais peut-être aider. Hein. On n'a peut-être pas besoin de lire tout le chapitre parce que ça va être long. Hein. Mais je résume, il va demander aux serviteurs établis sur les moissonneurs, c'est-à-dire le serviteur qui dirigeait les moissonneurs, quoi. C'était un peu une sorte de contremaître, là. C'était en fait l'image du Saint-Esprit. Ce serviteur, c'est l'image du Saint-Esprit. Il va lui demander qui est Ruth. Et donc ce serviteur va chanter un peu les louanges de Ruth. Hein, de Ruth. Il va dire, donc c'est une jeune femme moabite, c'est au verset 6 du chapitre 2. Une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Donc elle a demandé la permission de glaner. Hein. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et il faut imaginer qu'il devait faire chaud. Hein. Elle était debout toute la chaleur du jour. Et puis pas que debout, parce que pour glaner, il faut se baisser. Hein. Pour ramasser les épis qui sont tombés par terre, il faut se baisser. Donc c'était vraiment un travail éreintant, dans la chaleur, un travail pas facile du tout. Donc, pas étonnant que le serviteur la félicite, quoi, de ce travail. Donc, voilà. Quand il voit cette fidélité de Ruth, Boaz donc, lui dit de ne pas aller glaner ailleurs, de rester avec ses servantes. Hein, il lui dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après les servantes. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Donc il s'instaure son protecteur. Et quand tu auras soif, tu iras au vase, tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Ça rappelle Jésus qui disait qu'il était la source d'eau vive. Hein. C'est lui qui lui fait donner à boire. Et ensuite, plus tard, il lui fait donner à manger. Et elle en a tellement qu'elle peut en garder. Et en fait, ce n'est pas pour elle qu'elle le garde, mais c'est pour partager après avec Naomi, avec sa belle-mère. Hein. Donc Ruth, dans tout ce passage, on voit qu'elle est consciente de ne pas mériter les faveurs de Boaz. Hein. Mais elle accepte quand même. Et elle saisit ce que Boaz lui donne. Et elle prend même tout ce qu'il lui donne, au point d'emporter les restes pour aller les partager avec Naomi, donc pour aller bénir Naomi avec ça. Elle transmet tout de suite ce qu'elle a reçu de Boaz, elle le transmet aussi à Naomi. Et je pense que ce n'était pas que une nourriture physique, c'était aussi une nourriture spirituelle qu'elle a transmise à Naomi. Ensuite, au verset 23 du chapitre 2, il est dit « Ruth resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des anges, donc jusqu'à la fin de la révélation du salut, si on peut dire, jusqu'à la révélation totale du salut, et de la moisson du froment, jusqu'à la fin de la moisson du froment. » Et la fin de la moisson du froment, c'est la Pentecôte, donc c'est la révélation du Saint-Esprit. Donc là, ce passage, il nous dit clairement que Ruth est restée à être nourrie par Boaz, donc par Jésus, hein, à être nourrie spirituellement et physiquement aussi, mais spirituellement, jusqu'à ce que la révélation du salut soit complète et aussi la révélation du Saint-Esprit. Et elle a été enseignée par le Saint-Esprit durant toute cette période et elle a transmis ça à Naomi. Donc pas étonnant que Naomi, en fait, elle soit vraiment reconnaissante. Naomi, elle est passée d'une position d'amertume, hein, même si elle avait décidé de revenir dans le pays de Juda, la louange, elle était quand même encore amère. Elle est passée de là à la reconnaissance de qui était Boaz et de ce qu'il faisait pour Ruth et pour elle. Hein. C'est pas étonnant, parce qu'elles ont été enseignées tout ce temps. Hein. Et donc ça a duré plusieurs semaines. Mais c'est aussi ce que Dieu fait avec nous quand on fait une démarche pour revenir vers lui après un temps où on n'était vraiment pas bien. Eh bien, lui, non seulement il ne nous fait aucun reproche, mais il nous nourrit, il nous chouchoute, il nous soigne jusqu'à ce qu'on puisse à nouveau être pleinement utile dans son royaume, si on peut dire, quoi. Et c'est comme les disciples qui sont restés dans la chambre haute, après avoir été vraiment perturbé par ce qui s'était passé, Jésus sur la croix, tout ça, bon, c'était Jésus n'avait pas été roi du tout de la manière dont eux l'imaginaient, donc ça avait été très dur pour eux, tout ça. Ils avaient besoin d'être enseignés par le Saint-Esprit pendant ces 40 jours dans la chambre haute. Hein, et ils sont restés dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte. Jusqu'à ce qu'il soit prêt à recevoir le Saint-Esprit. Ben là, c'est un peu la même situation. Ruth a dû persévérer dans le travail difficile, sous la chaleur et tout et tout. Elle a dû être fidèle dans l'obéissance, à faire ça, même si elle ne voyait pas trop où ça allait l'amener, parce que ça n'avait pas l'air d'être une situation à long terme. Hein. Comment est-ce qu'elles allaient subsister après quand il n'y aurait plus rien à glaner et que les moissons seraient terminées? Voilà, c'était pas une solution à long terme. Elle a persévéré dans l'obéissance, dans la fidélité, jusqu'à ce qu'elles aient la révélation du Saint-Esprit. Et après, au chapitre 3, donc c'est le droit de rachat. Hein, il est dit donc que, donc c'est Naomi qui dit ça à Ruth, hein, que Boaz... il est leur parent, puisqu'il est un parent d'Élimélec, et donc il a droit de rachat sur eux. C'est-à-dire qu'il pouvait non seulement racheter les terres d'Élimélec, mais aussi il pouvait en fait épouser Ruth pour que l'héritage ne soit pas perdu, l'héritage d'Élimélec ne soit pas perdu. Donc, ce droit de rachat de Boaz, eh bien, ça parle clairement du droit de rachat que Jésus a sur nous. Jésus, il a acquis sur la croix le droit d'avoir notre vie tout entière à lui, hein, de régner entièrement sur notre vie. Et quand Ruth se couche aux pieds de Boaz, ben c'est vraiment l'image de nous qui devons spirituellement être aux pieds de Jésus et tout attendre de lui et recevoir ses instructions. Et au chapitre 4, donc je passe assez vite sur le chapitre 3 parce que je pense que c'est plus clair, hein, ça nous parle plus. Hein. Mais chapitre 4, c'est là donc que Boaz va aller jusqu'au bout. Hein. Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. Et en fait, c'est pas s'y arrêta seulement, mais s'y assit. Hein. Boaz, en fait, il faisait partie des anciens de la ville, de ceux qui jugeaient aux portes de la ville. Hein. Et donc là, il va prendre les autres anciens comme témoins, il le dit au verset 2, hein, pour exercer le droit de rachat. Alors, pour l'exercer, il a besoin d'abord de demander à quelqu'un d'autre qui a le droit de rachat, de préférence à lui, quoi, qui est le premier à avoir le droit de rachat. Et en fait, ce quelqu'un d'autre, donc c'est là que Claire m'a éclairé, c'est ce quelqu'un d'autre, c'est en fait l'Israël traditionnel. Hein. Ce quelqu'un d'autre qui avait le droit de rachat, c'est l'Israël traditionnel. Et ce quelqu'un d'autre, en fait, il était avant Boaz dans le sens où ben, Israël était le peuple de Dieu avant que l'Église soit créée. Quoi. Et donc, ce quelqu'un d'autre aurait bien voulu racheter les terres d'Élimélec, mais il aurait été d'accord aussi de prendre Naomi chez lui, pas de problème. Mais par contre, il ne voulait pas prendre Ruth chez lui, il ne voulait pas s'allier avec Ruth, parce que Ruth était une Moabite. Il ne voulait pas détruire son héritage. Et en fait, ça nous parle des obstacles qu'il peut y avoir quelquefois. Pierre, l'apôtre Pierre, a eu besoin de voir trois fois dans son esprit une nappe remplie d'animaux impurs, déclarés impurs hein, par la parole de Dieu, et d'entendre trois fois, donc de refuser trois fois de les tuer, de les manger, ces animaux impurs, parce qu'il voulait s'accrocher à la tradition, enfin à la loi, quoi, à la loi que Dieu avait donnée. Et il a dû entendre trois fois le Saint-Esprit lui dire « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas, ne le regarde pas comme souillé. » Il a dû l'entendre trois fois de suite. Et donc là, ce n'est pas étonnant que celui qui a le droit de rachat avant Boaz, qui représente l'Israël traditionnel, c'est pas étonnant qu'il ne veuille pas se charger de Ruth, qu'il ne veuille pas faire alliance avec Ruth. Ça va contre tout ce qu'il croit pour l'instant. Quoi. Mais bon, Boaz, lui, il est l'image de Jésus, et donc lui, il fait alliance avec Ruth. Il décide de faire alliance avec Ruth, de même que Jésus fait alliance avec nous, quel que soit notre état, parce qu'il sait très bien que c'est lui qui va nous changer, nous transformer, et ce n'est pas le contraire. Il sait très bien que ce n'est pas lui qui va être souillé par nous, mais c'est nous qui allons être purifiés par lui, hein, que c'est dans l'autre sens que ça se marche, ça se passe, et qu'il nous voit déjà transformés à son image. Hein. Donc Ruth va faire alliance avec Boaz et Boaz va faire alliance avec Ruth par le mariage. Et donc tout ça, c'est avec les anciens comme témoins. Donc ça se passe de manière tout à fait légale hein, aux yeux de Dieu. Et le fruit de cette alliance va être un fils. C'est ce qu'on voit au verset 13. Donc Ruth chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Donc c'est le premier fils qu'elle a, hein, elle a de Boaz. Et donc ce fils, eh bien, d'abord son nom, ça signifie servir. Obed signifie servir. Donc ça fait penser au fils de l'homme qui est venu pour servir, pour donner sa vie. Hein. Et puis ça m'a fait penser aussi à un passage de l'Apocalypse, Apocalypse 12, verset 5, qui parle de la femme des derniers temps. Hein. Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire paître les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. J'avoue que personnellement, j'ai un peu du mal à comprendre ce verset. Je crois que la révélation, elle vient au fur et à mesure, hein, elle va nous être donnée au fur et à mesure. Mais bon, je pense qu'il y a un lien quand même entre ces deux choses. Obed, c'est clairement une image de Jésus en tant que serviteur, en tant que de celui qui est venu pour donner sa vie, hein, pour le monde. Et ça nous parle aussi de l'Église. En fait, Jésus fait alliance avec son épouse, avec l'Église, qu'elle soit des nations ou qu'elle soit les Juifs messianiques, hein, les deux parties de l'Église, pour qu'elle serve le monde en faisant les œuvres du royaume de Dieu. Donc que l'Église devienne la servante du monde, mais dans le bon sens du terme, hein, qu'elle serve le monde en faisant les œuvres du royaume de Dieu. Parce que c'est au travers de ça que le monde pourra venir à Jésus. Donc le fruit de cette alliance de Ruth et Boaz, ben c'est la vie. Comme le fruit de l'alliance de Jésus avec son épouse, c'est la vie pour le monde. Voilà. Alors, je veux vraiment vous encourager à continuer à méditer ce livre de Ruth. Et puis, si vous recevez d'autres choses, moi, je suis toujours preneuse, hein, parce que chaque fois que je me suis replongée dans ce livre, mais chaque fois, j'ai reçu des nouvelles choses. Donc, je pense qu'il y a encore sûrement bien, bien des choses à en retirer. C'est très, 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 très profond. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez encore d'autres choses. Merci.
Merci Marie-Christine. Voilà. Deux choses qui me touchent particulièrement, c'est que en s'attachant à Naomi, eh bien, on découvre Boaz. Et je pense que la relation avec Israël et l'attachement qu'on a avec son peuple déterminent l'attachement et la connaissance qu'on a du Fils et de Jésus.